Pour l'amour de Sion, Israël, mythe et réalité. Bonjour, nous sommes Stéphanie Soufir et Michael Barzvi. Nous sommes à Radio TAF à Tel Aviv. Nous allons vous proposer une série d'émissions dédiées à Israël et au sionisme à travers l'histoire, les grands événements qui ont marqué Israël, les personnages qui l'ont façonné, les idées et les mouvements de pensée qui ont forgé cette histoire. Notre but est de comprendre, d'expliquer, de donner des faits et des éléments de réponse aux questions que tout le monde se pose sur Israël et sur le sionisme. Bonjour Michael.
Bonjour Stéphanie.
Michael, aujourd'hui nous allons parler de Eretz Israël entre 1919 à 1939.
Oui, entre les deux grandes guerres.
Oui,
c'est une période intéressante. On a déjà évoqué dans les émissions précédentes le mandat britannique, à savoir toute cette politique qui a été celle de la Grande-Bretagne au moment où elle a reçu de la Société des Nations le mandat pour créer ce foyer juif. Aujourd'hui, nous allons parler plutôt de la façon dont ce foyer juif s'est mis en place, s'est créé, s'est forgé et a été finalement à l'origine de ce qu'on a appelé le Yishuv, c'est-à-dire Yishuv, c'est la société israélienne telle qu'elle était avant la création de société d'Israël pré-étatique,
je dirais.
Voilà. On arrêtera en 1939, évidemment, l'événement de la Seconde Guerre mondiale, même si sur le plan du Yishuv, justement, ça n'est pas été forcément un grand changement. Les choses ont changé plutôt par rapport à la politique britannique que par rapport à ce qui se passait en Europe. Après, ça a eu évidemment une influence déterminante. Mais nous allons parler, au fond, de la construction de cette société israélienne au cours de ces années, qui ont à la fois été des années extrêmement fructueuses sur le plan de la construction des principales institutions et d'un certain nombre de, je dirais, d'éléments de la société israélienne qui existent encore aujourd'hui, d'ailleurs, les syndicats de professeurs, les syndicats en général, certaines grandes entreprises, certaines villes, évidemment, ont été créées, certains quartiers, certaines idées sur la société israélienne, sur son fond, mode de fonctionnement, qui ont changé au cours des années, mais malgré tout, il y a, je dirais, certains fondements qui sont restés, qui ont subsisté. Et puis, évidemment, en relation avec à la fois le pouvoir britannique en place et aussi les relations avec la population arabe.
D'accord. Donc parlons tout d'abord des différentes alias qui ont...
Oui, on a déjà évoqué la première et la deuxième alias. Après la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire à partir de 1919, commence ce qu'on appelle, dans le jargon des historiens, la Troisième Alia. Alors évidemment, la séparation entre 2-3, 4-2-3, c'est surtout sur des caractères, des caractéristiques de ces aliotes. En gros, on considère que la Troisième Alia dure de 1919 à 1924.
Elle est différente de la première et de la deuxième ?
Oui, elle est différente, même si y a évidemment des choses qui sont communes. Mais là, on est dans une autre situation. D'abord, évidemment, au début, 1919, en tout cas jusqu'à, je dirais, l'instauration du mandat britannique et l'arrivée du pouvoir britannique, mais aussi les premiers livres blancs, les limitations sur l'immigration, on pense en 1919 que... Eretz Israël va être, la Palestine va être ouverte aux Juifs, et donc tous les Juifs qui le souhaitent pourront s'y installer. Évidemment, ça c'est pas exactement comme ça que ça se passe en général. Et dans un premier temps, au lendemain de la guerre, il y a malgré tout une certaine crise économique, et donc le nombre de Juifs qui va venir pendant cette période n'est pas extrêmement important. En gros, on estime que c'est autour de 35 000 juifs qui arrivent pendant ces 5 années, à peu près. Et au départ, je dirais que les premières caractéristiques sont des caractéristiques plutôt politiques. C'est-à-dire que finalement, ceux qui vont monter en Israël, ce sont des juifs qui font partie d'organisations sionistes.
D'accord.
D'organisations sionistes structurées et souvent à caractère politique. Alors évidemment, On a encore en souvenir de ce qui s'est passé pendant la deuxième Aliyah, qui était une Aliyah, on l'a appelée très idéologique, très, je dirais, avec une idéologie d'implantation et surtout une idéologie sociale très puissante, égalitaire, socialiste, avec une vraie vision. À partir de 1919, au début, on va avoir un peu ce même esprit qui va continuer, avec un esprit, je dirais, pionnier. Donc, des groupes qui vont s'installer pour fonder des kibboutzim, des moshavim, et avec, dans cet esprit pionnier. Évidemment, se créent à ce moment-là les premiers partis politiques, et notamment les partis politiques qui sont socialistes, essentiellement trois partis, un parti politique qui s'appelle Apoel HaTzahir, le jeune travailleur, un autre parti politique qui s'appelle Poale Tzion, les travailleurs de Sion, qui ensuite deviendra, deviendra immédiatement un autre mouvement qui va s'appeler Ahdout HaAvoda, c'est-à-dire l'union du travail. Bon, ces partis sont au fond à l'origine de ce qu'on a appelé le parti travailliste, qui a été au pouvoir pendant très longtemps et qui existe encore en Israël aujourd'hui, même si et pas tout certain que les représentants actuels du parti Avoda aient une ressemblance quelconque avec leurs ancêtres pionniers. Mais en tout cas, c'est cette mouvance politique liée à la gauche et qui ont une vision du sionisme, qui est une vision sioniste-socialiste, tout à fait claire. Évidemment, la Palestine a été envahie, conquise par l'armée britannique, qui impose des institutions tout de suite, mais qui permet dans un premier temps l'installation des Juifs. Et donc on a l'impression, en tout cas au début du mandat britannique, que les Britanniques vont effectivement faciliter l'immigration des Juifs en Palestine. Bon.
Ça n'a pas vraiment été le cas.
Mais enfin, jusqu'en 1922, date de publication du premier mandat, du premier livre blanc, on a encore cette impression, d'autant que le premier haut-commissaire sur place, Samuel, est plutôt favorable au sionisme. Donc l'impression, même si on pressent déjà qu'il y a des tensions, et notamment au niveau de l'armée britannique, malgré tout on est sous un gouvernement militaire. Donc on voit déjà que parmi les agents, et notamment ceux qui viennent du ministère des colonies et ceux qui viennent du Foreign Office et qui sont des habitués, je dirais, du Proche-Orient, on sent très bien qu'il y a un sentiment antisioniste, voire antisémite, et souvent pro-arabe. Donc quelque part, on pressent déjà cela, mais on pense malgré tout que la politique de la Grande-Bretagne est une politique sioniste, favorable en tout cas au sionisme, et que donc on va permettre cette immigration. Pour l'instant, le problème des Juifs et du mouvement sioniste en 1919, c'est d'essayer de convaincre des Juifs de faire leur alliance.
D'accord.
Parce que ça n'est pas gagné. Notamment les Juifs européens, ceux qui sont en Allemagne, ceux qui sont en France, ceux qui sont en Angleterre, n'ont pas du tout l'intention de venir s'installer.
D'accord.
Et donc ceux qui peuvent venir, alors ils viennent un peu d'Europe centrale, mais il faut savoir aussi qu'il y a eu la révolution bolchevique, et que donc les Juifs ne peuvent pas tous sortir de ce qui devient l'Union soviétique. Donc il y a là un véritable problème, à savoir que souvent ceux qui peuvent faire leur allié ne le veulent pas, et ceux qui veulent le faire ne peuvent pas. Alors face à cela, malgré tout, on essaye, avec l'aide des Britanniques, mettre en place un système d'immigration.
D'accord.
Les Britanniques jouent un rôle un peu curieux, parce que d'un côté, certains sont favorables au sionisme et d'autres ne le sont pas. Petit à petit, va s'instaurer aussi un autre problème, qui est la question arabe. Et on le voit déjà dès les années 20. Il y a un début d'opposition violente au sionisme. Auparavant, il y avait eu quelques incidents avec, des bandes armées, des tribus armées, dans certaines régions, en Galilée, en Emek Israël, ou dans d'autres régions, mais c'était plutôt sur des pillages, c'était plutôt l'idée d'empêcher les Juifs de s'installer ou de voler éventuellement ce qu'ils avaient.
Là, en quoi est-ce que c'est différent ?
Là, c'est différent parce que ça va devenir une opposition à caractère, plus à la fois religieux et aussi national.
D'accord.
Et donc, il y a une institution qui est créée à l'époque, qui est le Haut Comité suprême musulman, c'est-à-dire la nomination d'un moufti, par les Anglais, qui veulent avoir une représentation, de la même façon qu'ils ont en face d'eux une représentation des Juifs, ils veulent avoir en face d'eux une représentation des Arabes. Et donc, ils font élire le moufti de Jérusalem, et ils vont choisir un des représentants, le fameux moufti de Jérusalem, Hadj Amin el-Hussein, d'une grande famille, la famille el-Hussein, et pour représenter les Arabes. Bon, famille assez problématique, et donc ils vont quelque part...
Pourquoi problématique ?
Problématique parce que les el-Husseini ne sont pas majoritaires, et dans la première élection qui a lieu, le moufti n'est pas, al-Husseini n'est pas élu. Mais comme les Anglais veulent avoir une alliance avec lui, ils cassent l'élection, ils le nomment.
D'accord.
Même s'il n'est pas élu.
D'accord.
Voilà, et problématique aussi parce que dans les grandes, ce qu'on pourrait appeler dans les grandes familles de Palestine, qui ne sont pas très très nombreuses non plus, il y a deux grandes familles, et les El-Husseini, ils sont en opposition avec une autre grande famille qui s'appelle les Nashashibim, qui sont majoritaires et qui ont d'autres positions. Donc, quelque part, souvent, ce type de conflit se résout en nommant ceux qui sont les plus extrémistes. Et donc là encore, il y a eu un choix qui a été fait par les Britanniques de prendre, je dirais, un leadership des Arabes de Palestine qui était un leadership plutôt extrémiste. Par rapport à d'autres qui étaient beaucoup plus modérés. Alors évidemment, quelles ont été les raisons ? On pourrait faire un doctorat là-dessus, je dirais, les raisons des Britanniques, divisés pour régner, il y a bien nombreuses explications. Ce qui est important pour nous, c'est que, évidemment, nous sommes aussi dans une situation où il y a encore, en Union soviétique, une guerre civile qui dure jusqu'en 1921. Donc les Juifs se trouvent au cœur de cette guerre civile qui secoue la Russie et les territoires contrôlés par l'Union soviétique. Ça va durer jusqu'en 1921 à peu près. Et donc ça, les Juifs, il y a notamment dans le cadre de cette guerre civile un certain nombre de pogroms qui sont dont les Juifs sont à souffrir parce que souvent dans cette guerre civile les Juifs sont pris à partie. Soit on les accuse d'être des bolcheviks, soit on les accuse encore une fois ils se trouvent pris entre deux feux. Et bien évidemment, la présence de nombreux juifs dans une partie de la direction du parti bolchevique n'arrange pas les choses. Voilà. Et d'autant que ces bolcheviks sont pour la plupart très anti-sionistes. Et donc considèrent le sionisme comme un ennemi de la cause communiste. Puisque c'est une forme de nationalisme qui s'oppose à la vision internationaliste du communisme qui est mise en place à l'époque en Union soviétique.
Mais quelle influence cela a sur...
Ça empêche les Juifs de partir.
D'accord.
Voilà, ils sont un peu bloqués, certains veulent partir, ils ne peuvent pas. Ils sont pris souvent dans cette guerre civile et ils n'ont pas toujours la possibilité de quitter. Et certains ne sont pas encore en mesure de pouvoir partir. Et puis, il y a un autre phénomène assez important dont on... par le moins, c'est peut-être moins connu, mais sur le plan de l'histoire juive, c'est important, c'est qu'il y a une grande vague d'immigration vers l'Amérique du Nord.
D'accord.
Et donc, au même moment qu'il y a cette vague d'immigration vers la Palestine, il y a également beaucoup plus de Juifs, d'ailleurs, qui partent vers l'Amérique du Nord. Parce que c'est un peu la terre promise, c'est aujourd'hui le rêve de beaucoup de Juifs de partir d'Europe centrale pour aller vers les États-Unis. Et donc, quelque part, économiquement, le rêve américain existe déjà, on a déjà une idée de ce que sont les États-Unis, et donc les Juifs, il faut le dire, aujourd'hui, nous sommes des sionistes, donc toi et moi, mais il faut aussi reconnaître qu'à cette époque-là, de 1880 à 1920, 1925, il y a plus de Juifs qui partent aux États-Unis, en Amérique du Nord, qu'en terre d'Israël. Alors, évidemment, les mouvements sionistes, tous les mouvements sionistes, donc j'ai dit Hapoel HaTzair, Hashomer HaTzair, le Mizrahi, le Bétar, ce sont des mouvements qui se créent un petit peu dans les années 20 et qui vont également avoir une influence sur l'Aliyah. Alors, le résultat de ces émeutes et de ces pogroms, c'est qu'évidemment la situation ne s'améliore pas en Europe. Et donc les Juifs qui vont vouloir faire leur Aliyah sont souvent des Juifs qui sont démunis, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas les moyens de venir, qui donc ont besoin d'une aide. Pour venir s'installer, cette aide, elle leur est fournie par le mouvement sioniste, mais évidemment, elle n'est pas extrêmement importante. Et donc, on a affaire à une alia qui, au début, est une alia de gens qui sont relativement pauvres et qui ont besoin d'un soutien financier. ce sur quoi les Anglais sont extrêmement sceptiques, parce que eux souhaiteraient une alia de gens aisés.
D'accord.
Et non pas une alia de gens pauvres qu'il faudrait soutenir. Donc
d'accord.
Ils ont justement cette idée d'essayer de ne pas permettre à ces juifs trop pauvres de venir s'installer. Bon, tout ça, ce sont des négociations un peu qui se passent, et entre les Anglais, entre les dirigeants du mouvement sioniste, il y a aussi un certain nombre de sionistes qui ont été expulsés ou qui ont dû quitter pendant la Première Guerre mondiale à cause des Turcs la Palestine, et qui veulent revenir. Donc tout ça fait un mouvement de population. Et on a à l'arrivée des premiers bateaux, dès le mois de décembre 1919, commencent à arriver des bateaux d'immigrants qui sont accueillis sur place, mais qui sont principalement pris en charge par les institutions sionistes, qui ne sont pas des gens qui ont eux-mêmes la capacité de s'assumer financièrement. Bien évidemment, si on fait une proportion, en gros, dans ces 35 000 personnes qui sont venues de 1919 à 1924, il y a 43% de gens qui viennent de Russie, 30% environ de Pologne, 5% de Roumanie, 3% qui viennent de Lituanie, et voilà, les autres, quelques
d'accord.
autres. Enfin, c'est essentiellement une alia qui
d'Europe
vient d'Europe centrale.
D'accord.
D'Europe de l'Est, d'Europe centrale. Sur ces 5 années, c'est, je dirais, la caractéristique, c'est
d'accord.
une alia de gens qui parlent essentiellement russe, polonais, yiddish. C'est, il y a très peu d'olim qui viennent d'autres régions. Alors, l'autre aspect, c'est que la plupart sont des jeunes, donc des jeunes qui sont souvent célibataires, donc ce sont des hommes et femmes célibataires, très peu de familles. Plus de la moitié sont des jeunes célibataires qui ont moins de 20-25 ans. Et puis, après, les familles arriveront plus après. Mais dans un premier temps, ce sont des jeunes qui vont s'installer et qui, pour la plupart, vont aller s'installer dans des petites bourgades, des kibboutzim, des moshavim, etc. Donc c'est une alia qui va au départ être, je dirais, non pas à caractère urbain, mais plutôt
d'accord.
à caractère rural dans un premier temps. Voilà. Alors, on peut dire que ces gens qui arrivent sur place, évidemment, il y a très peu d'enfants, il y a très peu de personnes âgées, la plupart ont besoin d'un soutien financier. Ce sont pas des gens qui viennent avec... Donc ça, c'est, je dirais, cette caractéristique. Ils ne vont pas tous, d'ailleurs, faire du pionnierisme. Au départ, ils viennent, ils veulent s'installer, mais... Finalement, on les envoie à travailler dans le nord pour construire des routes, pour travailler. Mais finalement, au bout du compte, ces gens-là ne vont pas rester dans ces kibboutzim.
D'accord.
Ils vont rapidement aller travailler, souvent envoyés par les organisations sionistes sur place. Ils vont être employés par le Keren Kayemet, par d'autres
d'accord.
associations. Mais ils ne vont pas rester dans l'agriculture. Ils ne vont pas s'installer pour devenir ou créer des fermes agricoles ou pour rester dans les kibboutzim. Ils vont assez rapidement les quitter. Un des seuls mouvements, je dirais, chaloutziques, qu'on appelle pionniers et pionnieristes, c'est un mouvement qui existe encore, qui s'appelle la Shomer HaTzair. C'était le mouvement de jeunesse de la gauche israélienne qui a été fondée en 1915, donc pendant la Première Guerre mondiale. Et qui donc est un mouvement qui a une idéologie communiste, c'est-à-dire vraiment une idéologie de créer une vie communautaire sur une base égalitaire, dans des coopératives, disons, kibboutzim. Et donc, il se prépare à cette alia. Donc c'est le seul mouvement véritablement pionnier qui forme les gens avant leur départ, pour travailler dans l'agriculture et dans les kibboutzim. Donc ça, c'est extrêmement important.
Miguel, je te propose que nous fassions une petite pause musicale et nous continuerons.
Harigouche, kvar lo kan. בין צדקי הכל עוד נחשוב שזה טוב אבל שתינו יודעות שזה טעם הריגוש כבר לא כאן זה לא סוד, סוד, סוד הזינוק הזה בין סדקי הלבד כמעט כאן הוא כבר עבד שתינו יודעות שזה טעם הריגוש כבר לא כאן הריגוש כבר לא כאן וזה טעם, טעם, טעם הריגוש כבר לא כאן
בין סדקי הזמן
עוד נחשוב שזה שם אבל שתינו יודעות שזה טעם הריגוש כבר לא כאן
Michael, que peux-tu nous dire de plus sur cette troisième alia ?
Alors, cette troisième alia, comme je le disais, a été marquée par un certain nombre d'activités, qui, notamment de construction. Notamment, on a commencé à construire des routes. Et donc, tous ces groupes de pionniers n'ont pas tous, comme je l'ai dit, créé des kibboutzim, mais ils ont fait des grands travaux, des chantiers. Ils ont un peu détesté un peu les cantonniers de l'époque. Et donc, ils sont allés créer les premières routes, notamment en Galilée, notamment en Emek Israël. Et ils ont participé à la transformation de ce pays de désert en un pays, je dirais, plus fertile. Mmh. Donc, ils ont eu des activités, je dirais, c'était plutôt des travaux publics, quelque D'accord. part. Donc, ces gens étaient envoyés comme travailleurs et ils avaient, comme, je dirais, leur slogan, c'était le travail hébreu. C'est-à-dire, le juif doit retrouver la valeur du travail. Et donc, être un travailleur physique, faire des travaux que les juifs ne faisaient pas, comme construire des routes ou assécher des marais. Donc, ils ont eu ce travail qui était un travail extrêmement difficile physiquement. Évidemment, ils n'étaient pas préparés à ce travail. C'était des jeunes intellectuels, pour la plupart, dont les parents étaient souvent des tailleurs ou cordonniers ou fourreurs, et donc qui n'avaient pas l'habitude de ces grands travaux de construction, de routes, de ponts ou d'assèchement de marais. Et donc, on a créé à l'époque quelque chose qui s'appelait les Gdouda Avoda, c'est-à-dire le bataillon du travail.
D'accord.
Créé par un certain Yosef Trumpeldor,
D'accord.
qui était un ancien soldat de l'armée russe, et qui avait d'ailleurs perdu un bras, et qui donc a créé ces Gdouda Avoda. Et notamment, il y a une histoire tragique, on y reviendra lorsqu'on fera, je pense, une émission sur Trumpeldor, qui s'est déroulée à Tel Hai, où ça a été peut-être un des événements, je dirais, fondateurs de ce qu'on pourrait appeler le mythe de l'armée israélienne, du combattant israélien, puisqu'ils ont été attaqués et ils ont refusé d'évacuer une zone qui se trouvait au nord de la Galilée, ce qu'on appelle en hébreu Etzba Galil, le doigt de la Galilée, c'est-à-dire la région aujourd'hui de Kiryat Shmona, Metula, cette région qui au départ ne devait pas faire partie du mandat britannique, mais était destiné à faire partie du protectorat français sur le Liban et la Syrie.
D'accord.
Et donc, malgré tout, les Juifs étaient partis s'installer dans cette zone. Et d'ailleurs, ils ont été au départ attaqués et ils ont refusé d'évacuer, alors que la direction du mouvement sioniste leur avait demandé d'évacuer. Ils ont refusé d'évacuer et ils sont morts sur place. C'est d'ailleurs pour ça que la ville de Kiryat Shmona s'appelle Shmona, puisque ce sont les 8 juifs qui ont été tués dans cette ferme de Tel Hai. Bon, il reviendra lorsqu'on parlera de ce Trompel d'Or, qui est une personnalité assez intéressante aussi. Évidemment, il y avait d'autres groupes qui étaient à la fois s'occupaient de construction, mais également de protection. Mmh. Et donc, on a vu apparaître, pendant cette période de la troisième Aliya, on a vu apparaître les premiers groupes d'autodéfense, puisque
la protection contre
les Arabes, puisqu'on s'est rendu compte que la police britannique soit intervenait trop tard, soit refusait d'intervenir, soit hésitait à intervenir, et donc les Juifs ont compris déjà, dès les années 20, qu'ils avaient besoin de se protéger eux-mêmes et de créer une force d'autodéfense dans à laquelle a participé d'ailleurs Trompel d'Or et Jabotinsky et d'autres qui ont été à l'origine de ces premiers groupes d'autodéfense qui défendaient soit les Yishuvim, les petites bourgades, les Kibbutzim, mais qui ensuite ont formé les gens à cette idée qu'il fallait se défendre. Autre institution importante créée en 1919 et qui a eu une extrême importance dans la vie d'Israël par la suite, c'est la Histadrut. La Histadrut, c'est un grand syndicat qui, au fond, ce serait non pas, on ne peut pas comparer ça au syndicat en France, mais c'est un syndicat qui regroupe en son sein tous les syndicats.
D'accord.
Et donc, une espèce de maison mère, mais qui, à la différence des syndicats que l'on connaît dans le monde, des trade unions en Angleterre ou des syndicats en France, qui étaient aussi à l'origine d'entreprises. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas seulement un syndicat pour les droits des employés, mais ils créaient du travail.
D'accord.
Et donc, la Histadrut a créé des cinémas, a créé des maisons de la culture, a créé des entreprises également, et notamment un certain nombre d'entreprises que l'on connaît, par exemple la Banque Hapoalim ou d'autres. C'était au fond une espèce de consortium qui à la fois défendait et qui donc considérait que dans la nouvelle conception de ce sionisme socialiste, eh bien il fallait que la Histadrut soit à la fois patron et syndicat.
C'est-à-dire que pour défendre un travailleur, il faut déjà lui trouver du travail.
Voilà, pour défendre un travailleur, il faut déjà lui donner du travail. Et si c'est un patron qui est lui-même issu du syndicat, il saura, dès le départ, donner les droits aux employés qu'il faut. Alors, évidemment, c'est une conception qui a énormément changé, mais la Histadrut a eu la main mise, je dirais, sur une grande partie de l'économie israélienne, puisque toutes les grandes entreprises de métallurgie, de l'industrie, ont au départ été créées par la Histadrut. Après, depuis une trentaine d'années, voire un peu plus, cette Histadrut s'est privatisée, et elle n'est plus aujourd'hui qu'un syndicat qui défend les employés. Et elle a, je dirais, s'est débarrassée de tous ses avoirs financiers et économiques pour justement ne rester qu'un syndicat. Mais au départ, sa puissance économique était probablement... C'était la première force économique du pays. Ça a été créé en 1919. Et ensuite, se sont créées toutes sortes de histadrouillotes, c'est-à-dire de syndicats, notamment le syndicat des professeurs, qui existe encore, enfin des instituteurs aujourd'hui, la Histadrut Amorim, qui a eu un rôle important, on y reviendra, et d'autres institutions. Bon, il y a évidemment une autre institution politique qui s'est créée à ce moment-là, c'est ce qu'on a appelé le Vada Yishuv HaIvri, qu'on pourrait dire, en fond, le Conseil National du Yishuv, qui était finalement une espèce de gouvernement, de petit parlement, qui allait, au fond, être l'interface avec le pouvoir britannique.
D'accord.
Voilà. Donc après 1924, une autre alia va arriver, qui est beaucoup plus importante, qu'on appelle la quatrième alia, évidemment, qui durera de 1924 à 1931, c'est-à-dire publication du deuxième livre blanc, 1931, et qui donc va... comprendre à peu près 70 000 personnes.
Hein,
70 000, le nombre d'Olim est de 70 000. Il faut savoir aussi quelque chose, dont on parle moins évidemment, c'est que pas tout le monde restait. Donc, il faut savoir que pendant la même période où, je dirais, de 1924 à 1931, il y a 70 000 juifs qui arrivent, qui émigrent en Israël, il y en a 20 000 qui quittent.
D'accord.
Donc, qui ne trouvent pas leur place, ne trouvent pas la possibilité de vivre en Israël. Donc, il faut aussi voir que ces mouvements existent, hein, ce mouvement de population existe. Malgré tout, il y a une différence extrêmement importante, parce que cette Aliyah arabite, c'est peut-être la première Aliyah qui va avoir, je dirais, un impact économique important.
Pourquoi ?
Parce que les gens qui arrivent dans le cadre de cette quatrième Aliyah sont déjà, je dirais, c'est une Aliyah un petit peu plus bourgeoise.
D'accord. Si elle vient toujours d'Europe centrale et de l'Est ?
Elle vient toujours d'Europe, d'une façon générale, mais commence à apparaître dans ces olimes des gens qui viennent de pays occidentaux, à savoir l'Allemagne, notamment. Donc déjà, des juifs un peu plus aisés, des juifs qui sont pour la plupart des citadins, donc qui veulent s'installer dans les villes. C'est le grand moment, je dirais, du développement de villes comme Tel Aviv.
D'accord.
Des villes comme Tel Aviv, Ramat Gan et même Haïfa sont des villes qui se sont développées pendant cette période avec l'arrivée d'une, appelons ça une bourgeoisie, même si c'est un petit peu exagéré, peut-être pas au sens... Mais malgré tout, économiquement, c'est un autre profil qui arrive. Ce ne sont plus des jeunes et des pionniers, ce sont déjà des familles, ce sont des gens qui viennent s'installer et qui construisent une ville. Il y a aussi un autre changement, c'est qu'à partir de 1924, commencent à arriver également des juifs séfarades.
D'accord.
Des juifs de certains pays, disons pays arabes ou autres, ils ne sont pas très nombreux, mais ils arrivent quand même et ils donnent aussi une autre, je dirais, une autre dimension à ce que peut être l'Aliyah.
Eux sont aussi, font partie des gens moins aisés.
Oui, bien entendu, bien entendu. Mais on voit déjà, quelque part, quelques olimes qui viennent même du Yémen. Il y avait déjà eu une Aliyah du Yémen au début du siècle. Là, il y a une autre Aliyah qui vient du Yémen. Évidemment, ce sont des gens relativement pauvres, mais qui ont un attachement au judaïsme, qui sont très sionistes, qui ont un amour de Sion, comme on peut dire, très très... je dirais, très profond. Alors, ce qui a évidemment poussé cette Aliyah, qui à majorité vient de Pologne, donc plus de Russie, c'est la situation économique en Pologne, qui devient difficile. La Pologne souffre énormément de problèmes économiques et donc va imposer des taxes, des impôts extrêmement importants sur ce qu'on appelle les classes moyennes. Et donc, les Juifs qui se trouvent dans cette situation, commencent un peu à quitter la Pologne, soit pour aller, comme je le disais, aussi vers les États-Unis, mais il y a une Aliyah sioniste qui commence à venir de Pologne, avec surtout l'implantation de mouvements sionistes de plus importants. Le Bétard a déjà été créé, le mouvement Avoda, ou ces différents mouvements qui portaient différents noms, d'ailleurs, Gordonia, Ardout Avoda, il y avait plusieurs noms, Apoel Hatzaï, Apoel Etzion, tous ces groupes à caractère, je dirais, politique, idéologique.
Le Bétard, c'était le versant du groupe Avoda, c'était plus sur le côté de droite.
C'était à la droite, voilà, la droite nationale, mais avec un dirigeant extrêmement charismatique, Jabotinsky, qui donc a eu, voilà, se crée un mouvement de jeunes, des mouvements de jeunesse sionistes, il y a un militantisme sioniste, et donc cela amène une Aliyah. Évidemment, l'autre aspect, et là, c'est peut-être ça qui a donner au sionisme sa véritable chance de se construire en tant que société moderne, c'est que les conditions d'immigration en Amérique du Nord changent.
D'accord.
Et donc, c'est l'Amérique du Nord, quelque part,
qui
les États-Unis,
ses frontières.
Qui non pas ferment ses frontières, mais en tout cas, il y a eu, je crois, en 1924, un ensemble de décrets de lois aux États-Unis qui s'appelaient les lois Johnson à l'époque, et qui donc limitaient l'immigration des Juifs, donc l'immigration devient plus difficile.
D'accord.
Évidemment, après, il y aura la crise économique, hein, qui est déjà la crise de 29, mais elle apparaît déjà dans les années 25 à 29. Il y a déjà un début de, je dirais, de régression de la vie économique aux États-Unis. Et donc, Il y a des lois de protectionnisme qui sont décrétées aux États-Unis et qui vont limiter l'immigration. Donc c'est plus difficile d'aller en Amérique du Nord. D'accord. La Palestine devient aussi une option pour ceux qui veulent quitter l'Europe. Alors ça a donné, un dynamisme supplémentaire. Ça, ce sont des données objectives qu'un historien peut voir. Évidemment, l'antisémitisme en Pologne, qui est extrêmement virulent pendant ces années-là. La Pologne, suite à la guerre, est devenue un pays extrêmement nationaliste, avec un pouvoir dirigeant qui est antisémite, et qui donc, même s'il y a une forte population juive, les persécutions augmentent, et beaucoup de juifs quittent la Pologne pour aller vers l'Europe aussi, vers la France. Hein. C'est la période où commencent à arriver beaucoup de juifs de Pologne en France, en Belgique et dans d'autres pays, en Allemagne, et aussi, évidemment, en Palestine. Donc, cette nouvelle alia, c'est peut-être... à un moment, on a appelé ça l'alia Grabski, parce que c'était le nom du premier ministre polonais. Donc, on disait, grâce à Grabski, on a une alia qui arrive. Voilà. Ce qui est important à voir, c'est surtout, le caractère économico-social de cette population, hein, c'est-à-dire que les données, disons, socio-économiques, évidemment, ce sont des gens qui ont un pouvoir d'achat plus important, donc qui sont capables d'acheter des maisons, de construire, de créer des entreprises, de créer des usines, d'ouvrir des magasins. Donc c'est une période qui économiquement est assez faste. On ouvre beaucoup de boutiques à Tel Aviv, on commence une vie économique dans tous ces centres urbains. Les gens font partie de ce qu'on appelait les classes moyennes, je l'ai dit, les classes bourgeoises. Et on a le développement des grandes villes, notamment Tel Aviv, Haïfa, Jérusalem, qui double de population en l'espace de moins de 10 ans. D'accord. En 1920-1930, la population de Tel Aviv, plus d'une augmentation de population de plus de 40 000, c'est-à-dire la population a plus que doublé pendant cette période à Tel Aviv. Également dans les autres villes. Je pense que dans l'état d'esprit des gens, le sionisme n'est plus une forme de pionnierisme agricole, mais on voit qu'il s'agit de la création d'une société. Mmh. Et donc, on voit aujourd'hui que le sionisme, ça n'est pas seulement les kibboutzim, c'est aussi Tel Aviv. C'est aussi créer des villes, c'est aussi créer des salles de concert, des sites, on voit les premiers cinémas, on voit arriver des théâtres. C'est important pour toi.
Absolument.
Voilà, on fera une émission sur le théâtre.
J'espère bien.
Voilà, et donc on voit aussi que une industrie se crée. Donc il y a des entreprises, il y a des achats de terrain. Les gens achètent des terres pour construire à la fois des entreprises, des usines. Alors il y a quelques grandes entreprises israéliennes qui ont été créées, qui existent encore aujourd'hui. Par exemple, les compagnies d'essence, une des plus grosses compagnies de cosmétiques et de savon cosmétique et autres qui s'appelle Shemen, qui existe encore aujourd'hui, je pense. Nasher, je crois qu'il faisait de la bière. Enfin, voilà, il y a toutes sortes d'entreprises qui sont devenues des entreprises extrêmement connues sur le marché israélien depuis toujours. Qui ont été créés à ce moment-là par des gens qui étaient des gens avec des initiatives économiques.
Nous allons faire de nouveau une petite pause musicale et on vous retrouve juste après.
היום הלב שלי חופשי, אין כבלים ואין עוד דאגות, הוא נקי משקרים וחף מגעגוע עירום. לב חופשי כמו הרוח, ואחרי שנשרף ואחרי שנגמר כבר משתחרר ונמלא לעוד פעם אחת. ואור גדול עולה מתוך החושך, מתגלה, מתגלה על
שלי חופשי בלי תוכניות ובלי הבטחות והחיים ממשיכים משפחה חברים נשים אז אני לא לבד אני רע בלעדייך והלב הזה שנשרף הלב הזה שנגמר כבר משתחרר ונמלט לעוד פעם אחת ואור גדול עולה מתוך החושך מתגלה
Michael, quand a débuté la cinquième Alia ?
Après la quatrième.
Merci.
1931.
Tu es d'un grand secours, vraiment.
1931, mais juste avant, évidemment, on fait cette séparation entre la quatrième et la cinquième, mm-hmm. surtout à cause du livre blanc. Sur le plan du Yishuv, le Yishuv était déjà bien installé. Et il y avait eu d'ailleurs un certain nombre de discussions idéologiques sur des tas de problèmes, sur notamment la nature de ce que pouvait être le sionisme socialiste. Mm-hmm. Donc il y a des kibboutzim qui, à l'époque, s'étaient séparés en deux, avec des espèces de guerres...
Séparés en deux entre les kibboutz religieux et les kibboutz
non pas du tout. À l'intérieur du même kibboutz, d'accord. Il y avait des scissions, des schismes...
Mais dû à quoi ?
Dû à des différences idéologiques extrêmement importantes sur comment élever les enfants, comment prendre des décisions, sur qu'est-ce que ça voulait dire l'égalitarisme au sein des kibboutzim. Et donc, tous ces débats, c'était très idéologique, tous ces débats, finalement... avait poussé les dirigeants sionistes socialistes à essayer de rassembler toutes ces petits partis mmh. qui s'étaient séparés à l'intérieur d'un grand mouvement
d'accord.
politique qui s'est appelé le MAPAI, qui a dirigé le pays pendant très longtemps. Aujourd'hui, le MAPAI est redevenu, en fait, le Tnouat Avoda, mais pendant très longtemps, ça a été le MAPAI qui était Miflegat Poalei Eretz Israël, c'est-à-dire le parti des travailleurs d'Eretz Israël,
hein,
qui a été, je dirais, le parti qui a dirigé le pays jusqu'en 1977, mm-hmm. hein, puisque Ben Gurion faisait partie, était le chef de ce parti, le Miflegat Poalei Eretz Israël. Alors, évidemment, à la fin de la quatrième Alia, il y a une crise économique, comme il y avait d'ailleurs en Europe. C'était finalement un peu le reflet mm-hmm. de ce qui se passait en Europe. Entre 1926-27, ça a commencé. Et donc, ça s'est évidemment répercuté en Israël, ça a eu pour conséquence le départ, comme je l'ai dit, d'un certain nombre de gens qui étaient venus s'installer en Israël depuis 1919 d'accord. et qui ont dû repartir d'accord. ou quitter Eretz Israël parce qu'ils n'avaient plus les moyens d'y vivre. Ou en tout cas, ils ne se reconnaissaient plus forcément, certains, dans la façon dont on vivait à cet endroit-là. Alors, la cinquième Alia, évidemment, c'est une Alia qui va être une Alia extrêmement compliquée sur le plan politique, mm-hmm. une Alia importante sur le plan des nombres, puisque c'est probablement la plus importante.
Combien de personnes ?
180 000. D'accord. 180 000 personnes. Donc, c'est vraiment l'Alia qui a permis, je dirais, à la société israélienne...
180 000 en moins de 10 ans.
Oui. Et avec, surtout, quelque chose d'extrêmement grave, qui étaient les limitations qui ont été mises par les Britanniques à partir de 1930 à l'immigration. Et donc ça... Je pense que c'est quelque chose qui a eu une influence importante, mais il y a eu une vraie détermination à ce moment-là du sionisme de pousser l'immigration. Mmh. À ce moment-là, je dirais que le mouvement sioniste a considéré que l'Aliyah, c'était la priorité. Mmh. Jabotinsky, à un moment, disait « l'Aliyah doit être un sport national ». Et l'Aliyah clandestine, aussi un sport national.
Forcément.
Donc, plus les Britanniques mettaient des limites à l'immigration, plus la volonté de forcer, je dirais, le passage, était importante. Et donc, se sont créés des véritables mouvements qu'on a appelés l'Aliabet, c'est-à-dire des mouvements d'immigration clandestine. Alors, les certificats, ce qui a changé, et ça, c'est extrêmement important à comprendre, ce qui avait changé dans la politique et qui a été instauré par le second livre blanc, c'était non seulement de limiter le nombre de lits, mais aussi d'imposer des conditions, et notamment des conditions financières. Et c'est ça qui est extrêmement important, c'est de comprendre que pratiquement personne ne pouvait remplir ces conditions.
Quelles étaient ces conditions financières ?
Ces conditions, c'était par exemple que chaque personne dispose de 1000 livres sterling.
Pour pouvoir venir.
Voilà, pour pouvoir venir, il fallait pouvoir justifier d'un pécule de 1000 livres sterling. Et en se présentant au consulat britannique pour obtenir le certificat d'immigration. Donc évidemment, parfois, il s'agissait... donc la personne pouvait amener éventuellement sa femme, mais éventuellement ses enfants, mais tous ceux qui, par exemple, exerçaient des professions libérales, devaient rajouter encore 500 livres sterling pour pouvoir exercer cette profession. Donc la plupart des juifs qui, évidemment, étaient là... ne pouvaient pas. Ceux qui avaient des professions, d'autres professions, devaient rajouter encore 250 livres sterling pour pouvoir ouvrir un commerce. Et donc, il fallait aussi qu'ils puissent prouver qu'ils avaient un travail prévu en Israël et qu'ils pourraient subvenir à leurs besoins. Voilà, toutes sortes de conditions qui ont été mises par les Anglais pour... donc, il fallait qu'ils prouvent qu'ils auraient, dans les 6 premiers mois de leur arrivée en Israël, au moins 500 livres de revenus. Donc, toutes sortes de conditions qui étaient pratiquement impossibles à remplir. Donc, le mouvement sioniste s'est opposé à cela et essayait d'obtenir des certificats d'immigration. C'est le mouvement sioniste qui, parfois, déposait l'argent pour pouvoir permettre à ces olives de venir. Et puis, évidemment, y a tout un mouvement d'alia illégal qui s'est créé. J'y reviendrai dans un instant. Alors, ce qui a poussé également cette alia, c'est ce qui se passe en Europe. À partir de 1930, la montée du nazisme, la montée du fascisme, la montée des, je dirais, l'arrivée malgré tout de pouvoirs nationalistes dans certains pays, d'autres pays d'ailleurs que l'Allemagne et l'Autriche, hein, il faut savoir. Donc, quelque part, le sentiment d'insécurité grandissait. Même si personne n'imaginait ce qui allait se passer pendant la Seconde Guerre mondiale, ce sentiment d'insécurité existait. Et bien évidemment, à partir de 1933, il y a une très forte alia de juifs qui vont venir d'Allemagne et d'Autriche s'installer en Israël. C'est ce qui fait que ce nombre est important. Immigration qu'on partage, je dirais, entre immigration illégale et immigration légale.
Approximativement, alors, cette immigration illégale, elle
est de... Difficile à estimer le chiffre exact. Hein. On n'a pas de chiffre sur l'immigration illégale, parce que souvent, ces immigrants illégaux étaient légalisés par la suite.
D'accord.
Donc, on n'a pas vraiment des chiffres. C'est peut-être pas aussi important qu'on le pense, mais malgré tout, on pense que cette immigration illégale, c'est à peu près un tiers.
D'accord.
De cette immigration de 180 000, moi je dirais entre 50 et 60 000 peut-être dans cette période. Il faut savoir que sur la population, presque 95 000 viennent d'Allemagne.
D'accord.
Ce sont des juifs allemands. Forcément. Donc ce qui caractérise cette alia, c'est qu'on appelait ça l'alia des Yekim, c'est-à-dire l'alia des Allemands.
D'accord.
C'est ça qu'on donnait le surnom des Allemands. Alors, évidemment, c'est une IA particulière, parce que les Yakim, ils ont certaines habitudes très allemandes, hein, quand même, c'est très ordonné, donc ils créent un certain nombre de règles, notamment, ils vont, je dirais, instaurer, ils l'avaient déjà, évidemment, c'est une population juive qui est relativement aisée, et surtout qui a un niveau intellectuel et culturel, je dirais, supérieur aux juifs d'Europe orientale. En tout cas, c'est ce qu'ils pensent eux-mêmes déjà d'eux-mêmes. Et donc, ce qui caractérise ces juifs yakais, c'est qu'ils pensent être, eux,
l'élite.
Voilà, l'élite. Ils se pensent eux-mêmes comme une élite. Mmh. Et ils vont créer un certain nombre d'institutions qui correspondent à leur culture. L'orchestre philharmonique. Voilà, ils créent je dirais, ce qu'on pourrait appeler la culture élitiste d'Israël. D'accord. Et que ça existe encore aujourd'hui, d'une certaine façon. Vrai. Par exemple, l'université israélienne est extrêmement... depuis cette époque, et même un petit peu avant, très germanique. C'est-à-dire que les grands professeurs, les premiers grands professeurs de l'Université hébraïque de Jérusalem étaient pour la plupart
allemands.
Et donc, ils ont créé, je dirais, des règles à l'allemande. D'accord. Une espèce de vision de l'université selon la culture germanique. Ces Yakim, étaient pour la plupart, évidemment... s'il y a une institution assez intéressante, c'est qu'en Israël, tous les gens qui sont docteurs, on les appelle docteurs.
D'accord.
Donc ça, c'est très germanique. En France, même quelqu'un qui a un titre de docteur de philosophie ou de sociologie, on ne l'appelle pas docteur, mais en Israël, et c'est resté.
D'accord.
Jusqu'aujourd'hui, on dit, monsieur le docteur, même s'il n'est pas médecin. Alors qu'en France, on utilise le mot docteur pratiquement que pour les médecins. Ici, toute personne qui dispose d'un doctorat est docteur. Donc ça, c'est c'est une anecdote, mais c'est un peu dans l'esprit de ce qu'ont apporté ces Yakim à la société israélienne. Ils ont apporté cette culture, ils ont apporté cette forme d'élitisme, ils ont apporté aussi une certaine richesse, puisque certains ont réussi à sortir d'Allemagne et à recréer un peu de richesse ici. Par exemple, certains journaux, par exemple, certaines figures de la culture israélienne viennent de ce milieu élitiste. Allemand. Je parle de la musique, mais le philharmonique, mais le théâtre, le cinéma, toutes sortes de cette culture-là a été apportée par les Juifs qui sont venus pendant cette période et qui sont, sur l'ensemble, c'était à peu près réparti entre les Juifs allemands et les Juifs polonais. Mm-hmm. 40% de cette alia, c'est quand même des Juifs de Pologne. Mais peut-être que c'était une population beaucoup plus populaire, prolétarienne. Et donc, quelque part, on a vu apparaître dans Tel Aviv, par exemple, certaines grandes entreprises, certaines grandes institutions fondées par des Allemands dans lesquelles travaillaient des Polonais, des Juifs polonais. Voilà, c'était un peu cette répartition. Après, il y a eu évidemment d'autres Juifs qui sont venus de communautés moins importantes, mais qui étaient également connus dans le judaïsme, comme par exemple la Tchécoslovaquie ou la Lituanie, mais c'était de l'ordre de 3 ou 4% de ces gens qui venaient. Autre institution importante de cette période, qui a eu un rôle extrêmement important par la suite, et notamment après la guerre, mais les fondations, c'était en 1934, c'est ce qu'on a appelé l'Aliyat HaNoar, c'est-à-dire l'Aliyat des jeunes, qui était en fait une institution créée par une femme exceptionnelle qui s'appelait Henrietta Sold, on aura l'occasion d'en reparler, et qui avait pour but de créer, des institutions, des internats, des villages agricoles, mais pour les jeunes qui venaient sans leurs parents et qui étaient, installés dans des genres de pensionnats, financés par le mouvement sioniste, et qui donc étaient formés soit à l'agriculture, soit à d'autres métiers, mais c'était l'idée de les faire venir dans leur jeunesse. Au fond, on les faisait partir de leur famille, et souvent, ça a permis de sauver ces jeunes, puisqu'ils ont échappé finalement à la Shoah, parce que les parents les ont envoyés dans ces fameuses fermes de l'Aliyat HaNoar, alors qu'eux sont restés prisonniers, du piège nazi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a eu un certain nombre de choses importantes pendant cette période. Et pour terminer, en 1939, grâce à toutes ces aliotes, il y avait déjà entre 400 et 500 000 juifs en Eretz Israël, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, Alors, je donne ce chiffre parce que c'est important, pour comprendre que, d'abord, les Juifs ne sont pas arrivés ici tous après 1948, et ils ne sont pas tous revenus parce qu'ils étaient des réfugiés après la Shoah, mais il y avait déjà la construction d'une véritable société en gestation, avec des institutions économiques, des institutions sociales et culturelles, et que 400 à 500 000 Juifs, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, ce n'était pas négligeable, c'était déjà une grande réussite du sionisme.
Eh bien, merci beaucoup, Michael. Merci, chers auditeurs de Radio TAF, de nous avoir écoutés. Je vous dis à très bientôt. Et nous allons nous quitter en musique. Leitraot.
מאז שעזבת הרבה השתנה כאן זהו זמן שיגעון מהומה עד אין קץ ובכל רגע חדש פורענות לא עלינו והכל חי ברשת הכל התפוצץ ובאופק אחר על אותו דף גמרא יושבים כל הלילה אתה ואני שלוות עולמים פרדס חנה כרכור אקליפטוס ברוח שורק בלוז כנעני שעזבת החושך גובר כאן האור שלך מאיר עדיין זוהר זה סיבוב הופעות מקומי אתה יודע אותו שיר כאב הולך וחוזר ובאופק אחר סביב שולחן השבת יושבים כולם יחד גם אתה ואני שלוות עולמים פרדס חנה כרכור אקליפטוס בודד שורק בלוז כנעני שעזבת הרבה השתנה כאן זה עולם אלקטרוני קצת קשה לדבר ומילים כמו שלך אף אחד לא אומר כבר הנר שלך מאיר עדיין בוער ובאופק אחר אחרי הופעה נעביר בסיבוב זר קוצים רחני שלוות עולמים פרדס חנה כרכור אקליפטוס ענק שורק בלוז כנעני שעזבת הרבה השתנה כאן הנר שלך